When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Hold on, everybody. Here it comes.
Spotzl, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode de 87, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec l'incroyable Caroline Ferguson. Incroyable car Caroline ne roule que depuis 3 ans et pourtant démontre une force, une détermination et une endurance hors normes. De plus, Caroline multiplie les expériences et maîtrise différentes formes de pratiques. Ainsi, nous pouvons la croiser aussi bien sur une épreuve d'ultra-distance, sur un critérium en pignon fixe ou en gravel. Tout cela constitue une préparation idéale pour le tour du monde qu'elle projette de faire avec son mari. Vous l'avez compris, je suis totalement fan de Caroline, mais ce n'est rien à côté de l'admiration que j'ai pour son mari. Parallèlement aux péripéties de Caroline, vous découvrirez dans la newsletter numéro 6 le récit d'un 600 km douloureux mais riche d'enseignements par ma chère Clémence van der Geneist, j'espère bien prononcer cette fois. Je précise que Clémence sera au départ de la Race Across Rwanda dans 2 mois exactement. Également, en lien avec l'épisode 77 avec Clément May, vous trouverez un parcours mixte route gravel à partir de Annecy, monter le col de l'Arpeta, avaler la route de la soif, attention ça secoue un peu, et arriver au col des Aravis avant de redescendre sur Annecy. Une boucle vraiment vraiment géniale de 100 km pour 2000 mètres de dénivelé. Et pour finir, les abonnés à la newsletter ont reçu ce matin le calendrier des épreuves gravel et bikepacking pour 2021. Il en manque certainement, aucun problème, allez jeter un œil et n'hésitez pas à mettre vos suggestions d'épreuves dans les commentaires. Voilà qui est dit, sans plus attendre donc, Caroline Ferguson.
Allô ?
Allô Madame Ferguson, bonjour Richard Delhomme.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, je vais très bien, merci.
Eh ben, magnifique. Dis-moi, Caroline, alors déjà, merci de m'accorder un petit peu de temps. Je suis fâchée contre toi.
Ah, pourquoi ?
Parce que tu m'as dit, j'ai pas de gravel, j'ai qu'un cyclocross, d'accord, c'est un spé crux, mais il va falloir que tu m'expliques un petit peu ce nouveau vélo que t'es en train de te faire fabriquer et qui a l'air magnifique. Et en plus, je l'ai vu avec une paire de zip totalement démentiel, donc ça, il va falloir m'en dire un petit peu plus.
Ça marche. Les roues, ce ne sera pas les roues que j'aurai, mais oui, je pourrais en dire plus.
Bon, en même temps, je rigole, donc ça t'indique que je suis fâché, mais pas tant que ça. Donc
bon, ça va. Pas sûr. Je ne voulais pas commencer du mauvais pied.
Mais non. Bon, alors, Caroline, qui es-tu ?
Qui suis-je ? Bonne question.
Ah bah, mais si tu ne peux pas répondre à cette question, ma grande, je ne peux rien pour toi. Hein.
Non, ça dépend. Je suis plein de choses différentes. Hein. Après, dans le monde du cyclisme, je suis une cycliste d'endurance, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Voilà. Après, je suis une cycliste plutôt nouvelle hein, dans le monde du cyclisme, puisque j'ai commencé en 2017. Donc, je suis tombée assez tard dans le vélo. Et ça a été un peu le coup de foudre. Et depuis, ben, c'est allé en s'accélérant. Et ça a été principalement donc du vélo de route et de l'endurance. Donc moi, dès que je passe les 200 km, je suis contente. Quoi. Voilà,
d'accord.
C'est à peu près ça.
Et à côté de ça, d'où viens-tu ? Que fais-tu ? Où habites-tu ?
Oui.
Quand même, fais-nous rêver.
Bien sûr. Voilà, donc alors moi, je suis née à Marseille, donc je suis française à l'origine, et du fait de mes études, j'ai pas mal bougé, donc j'ai vécu à Paris, aux États-Unis, puis après en Suisse, et enfin à Londres, où je me suis maintenant installée, ça fait 5 ans. pour mon travail. Et donc, je travaille dans la banque d'affaires, hein, forcément. En ayant commencé en Suisse, je suis donc dans la banque. J'ai commencé plutôt comme consultant. Et maintenant, je fais ce qu'on pourrait appeler du management de projet. Donc, voilà, en ce moment, le gros thème, c'est Brexit. Je m'éclate. Et voilà, donc, j'habite toujours à Londres et j'y suis très bien. Et c'est surtout là que j'ai découvert le monde du vélo. Voilà.
J'ai vu que tu roules sur un Pinarello. Est-ce que c'est un choix quelconque parmi l'offre pléthorique de vélos, ou est-ce qu'il y a un lien quand même sentimental entre l'Angleterre d'adoption, Londres et l'équipe Ineos?
Alors moi, c'est sûr, j'ai une énorme admiration pour Chris Froome. Après, c'est peut-être parce que justement, je suis rentrée un petit peu dans le vélo tard, donc moi j'ai des repères qui sont plus récents, mais j'ai toujours adoré le Dogma F8, plus d'ailleurs que je trouve au niveau du design que le F12. Mm-hmm. Et donc j'aime beaucoup en fait passer du temps aussi dans les boutiques de vélo, et c'est assez rare d'avoir des boutiques qui sont, enfin les boutiques titres en tant que telles. Donc c'est vrai qu'il y a des revendeurs, mais c'est assez rare d'avoir la boutique Pinarello par exemple. Et en fait, donc à Londres, on en a une, et c'est un jour où j'allais faire du lèche-vitrine, où ils m'ont dit « Ouais, on a des super prix sur les F8, si ça vous intéresse. » J'ai dit « Ah !» Et donc, du coup, j'ai acheté le cadre, et à partir de là, ouais, je me suis fait plaisir, quoi. Voilà.
Ah, il était à seulement 8000 livres, donc effectivement, c'était une occasion à saisir.
Pour un F8, franchement, ce serait quand même...
Et d'ailleurs, à ce prix-là, vous m'en mettrez deux, s'il vous plaît, monsieur. Alors, juste une aparté, l'expression « lèche-vitrine », bravo, parce que celle-là, on ne l'entend pas tous les jours, quand même.
J'espère que mon français ça ira, parce que je parle tellement peu français maintenant que je mets des anglicismes absolument partout.
Ouais, mais tu peux être légèrement excusé, parce que tu fais ta vie en Angleterre, donc tu es excusé. Par contre, là où je suis un petit peu déçu, et comme tu as vécu en Suisse, tu connais cette expression, je suis déçu mais en bien.
Ouais.
qui est une expression typiquement genevoise. T'es né à Marseille, mais t'as pas l'accent. Et dans tes trucs Instagram que j'ai vu hier, la vidéo que t'as balancée ces derniers jours, quelqu'un a mis en commentaire « Je suis déçu, t'as pas d'accent français ». Donc je suis un petit peu déçu finalement, parce que t'as pas d'accent marseillais, t'as pas d'accent français, tu vis à Londres, et donc je comprends un petit peu ta schizophrénie d'identité. Qui es-tu fait?
Ouais, non, c'est vrai que j'ai vécu dans pas mal d'endroits, bon, j'ai quand même un accent français, hein, un britannique qui reconnaît que je suis française, mais c'est vrai que très souvent... ça arrive que des gens me disent vous êtes allemand, français, ils sont pas sûrs en fait d'exactement d'où l'accent vient immédiatement. Et après, oui, alors j'ai quand même des petits mots marseillais qui me restent, et puis j'avais un petit accent quand j'ai quitté Marseille, mais c'est vrai que je suis partie, j'avais 18 ans, donc même si ma famille est toujours là-bas, ben oui, malheureusement, j'ai perdu l'accent. Mais je connais quand même le parler marseillais, j'y arrive encore.
Donc des fois dans les rues de Londres, ça t'arrive quand même de lâcher un peu cher.
Quand on est plus cher, il y a des gains aujourd'hui, il y a n'importe quoi. Voilà, ça passe.
Tu sais quoi, ma fille dit peu cher.
Ouais.
Elle a 3 ans, mais ma mère lui a appris à dire ça, et elle lui a appris l'accent et tout, et Ellie dit peu cher. Oh.
Non, mais il y a des expressions très très utiles, hein, en marseillais. Par exemple, pour le vélo, je te chale. C'est-à-dire, je te porte sur mon vélo, en fait. C'est quand on veut faire monter quelqu'un sur le garde-boue, on dit je te chale. C'est un mot qui est très utile et qui manque à la langue française. Ben, les Marseillais, là. Donc voilà.
Tu vois, il y a plein d'expressions comme ça, vraiment typiques, pour des expressions de la vie quotidienne, comme passer la serpillière. Selon la région où on va être, on va pas le dire de la même manière. Et c'est ça qui est vraiment génial, parce que, tu vois, passer la serpillière, si t'es à Poitiers, ils vont te dire, attends, je vais passer la Sens. Et quand t'es pas du coin, tu dis, mais de quoi tu me parles?
Ouais, à Marseille, c'est une pièce.
Ah bah,
c'est la pièce, la serpillière,
Ah bah voilà, tu vois, donc franchement, c'est vrai. Des fois, c'est pas facile le français quand même.
C'est pas facile, c'est sûr. Enfin, après, à l'anglais, c'est pas mieux. Moi, parfois, j'ai des types qui m'appellent d'Écosse, et j'ose pas être. Je veux pas être impoli au téléphone, et je suis là, excusez-moi, je n'entends pas très très bien, la ligne n'est pas excellente, pourriez-vous répéter, quoi. C'est vrai que les accents.
Ouais. Mais ça vient de la communication, généralement ça grésille, mais c'est pas leur accent pourri, ça peut pas être ça.
Non, pas du tout. Non.
Ça peut pas être ça.
C'est pas ça, non.
Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le vélo, ou plutôt sur un vélo?
Moi, ça a été vraiment, en fait, au départ, le besoin d'aller au travail et le fait que venant de Zurich, en fait, qui est une toute petite ville où j'avais commencé à travailler et on pouvait pratiquement faire tout en tram ou à pied, c'était très agréable. Je me suis retrouvée à Londres où, franchement, moi, l'idée de prendre le métro, j'avais eu le même problème quand j'étais à Paris, j'aimais pas du tout ça, je trouve ça pas agréable, il y a plein de monde. Donc, au départ, moi, j'ai commencé surtout à courir, j'allais au travail en courant et c'était pas mal au début parce que j'étais bien. J'étais à l'ouest de Londres, donc je passais par la Thames et c'était plutôt sympa, enfin par la Tamise. Et puis après j'ai déménagé en fait et ça me faisait genre faire un 5 km au milieu de la pollution et franchement c'était pas top. Donc du coup j'ai commencé à faire du vélo. Donc c'était vraiment sur ce qu'on appelle les Santander bikes, quoi, les Boris bikes ou les Vélib. Et au début j'avais un peu peur en fait, mais bon pas plus que ça, on s'y habitue. Et c'est surtout en fait j'ai rencontré donc la personne qui est maintenant mon mari, qui lui à l'origine c'est vraiment il est plutôt VTT puis cyclotourisme. Et lui, il m'a vu sur un vélo, il m'a dit, mais il faut que tu fasses du vélo. Hein. T'as vu comme t'es rapide sur un Vélib, tu vas être génial sur vélo de route.
C'était avant ou après le mariage, ça?
C'était avant.
Il est doué, ce docteur, tu lui diras de ma part.
Voilà. Et je lui ai dit, mais il est hors de question, ne m'achète pas de vélo et tout. Et il m'a acheté vraiment mon premier vélo de route. C'est un vélo à, je sais pas, à 150 euros, je pense, un truc comme ça, 200 euros. Il me l'avait acheté pour Noël. Et au début, enfin quand je l'ai vu, j'ai dit non mais c'est débile, je vais jamais l'utiliser, je vais avoir trop peur, voilà. Et le jour même de Noël, le 25, il m'a emmené en fait faire une balade à la campagne et j'ai totalement adoré. Alors je suis tombée parce qu'il a essayé de me prendre la main ou de me taper dans la main et je me suis cassée la gueule.
Donc mais, ça c'était après le mariage, il s'était rendu compte de ce qui s'était passé.
Et d'ailleurs quand ça s'est passé, il s'est dit ah ça y est c'est foutu, elle va jamais plus vouloir venir. Et en fait, non, pas du tout. J'ai tout de suite accroché. Et après, lui, il devait partir en Afrique du Sud, en fait, pour son travail. Et je me suis mis comme objectif de pouvoir faire du vélo toute seule avant qu'il revienne, en fait. Et donc, j'ai trouvé un club de vélo local. Et j'ai commencé à y aller tous les dimanches. Et puis après, c'est devenu pratiquement tous les jours. Et c'est de plus en plus, et de plus en plus. Et plus j'avais envie. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le vélo, en fait.
Sur le
et quand
vélo.
Il est rentré, on est allé faire les sangliers du Mont Ventoux. Donc il s'est dit ça va, elle n'est pas mauvaise.
Facile.
Voilà.
Facile. Ouais. Rétrospectivement, les cinglés du Ventoux, avec ce que tu fais maintenant, est-ce que c'est dur ou pas dur? Ou franchement, c'est quand même c'est une grosse journée d'entraînement, on est d'accord?
Ouais, franchement, c'est pas dur. Ça se fait bien. Après, ça dépend si on fait ça comme une espèce de déchaîné et c'est super rapide. Mais franchement. La première fois que je l'ai fait par Bédouin, puis Malocène, puis Sceaux. Cette année, je l'ai refait, j'ai fait Malocène en premier, puis Bédouin, puis Sceaux. Et franchement, ça se fait bien, quoi. La première fois que je l'avais fait, ça nous avait pris pratiquement, enfin, la journée, je pense, on s'était pris un peu tard quand même. On avait dû partir vers 10h ou 11h. Mais là, cette fois-ci, on est parti un peu tôt. On est parti tôt, et franchement, on avait fini ça en. Je faudrait que je regarde mon Strava, mais ouais, ça a été rapide, quoi. Non, c'était chouette.
Bah oui, parce que c'est quand même que 140 km avec 4000 de dénive. Donc, c'est 3 montées, 3 descentes. Et en plus, quand tu finis par saut.
C'est quand même sympa. Et puis après, l'avantage de ça, c'est que. Tu montes, tu descends, à chaque fois tu descends, t'arrives dans un endroit où t'as des cafés et tout ça, donc c'est...
Grave, et t'en as en haut aussi.
Ouais, en plus. Donc franchement, c'est plutôt sympa, quoi. Voilà, faut avoir un peu de chance, faut pas qu'il y ait trop de vent et choses comme ça, mais bon, à part ça, ça fait un peu peur dans la descente s'il y a vraiment du vent, mais... Ouais, non, moi j'aime beaucoup Ventoux, hein. Je l'ai fait plusieurs fois et c'est un endroit que j'aime énormément. Peut-être parce que justement je suis de Marseille, pour moi c'est un peu le mythe local, quoi. Voilà.
Bon, ça fait un petit peu de borne quand même, mais tout ce qui est les talus derrière Marseille, justement, Aubagne, vraiment toutes les collines de Marcel Pagnol, ça te chatouille un petit peu maintenant que t'as un gravel?
Ah mais énormément, mais le problème en fait c'est que moi je viens d'une famille qui déteste le vélo et de parents qui sont des angoissés mais chroniques en fait.
Mais et pourquoi
parce que le vélo c'est dangereux, parce que voilà, c'est marrant, hier je parlais dans mes nouveaux projets avec ma mère qui me disait mais c'est pas possible, mais tu pourrais pas m'appeler pour me dire je sais pas moi que tu es enceinte. Je dis mais écoute maman, ça viendra, mais pour l'instant justement en tant que je n'ai pas d'enfant, j'en profite, je pars à l'aventure. Et c'est pas du tout ma famille, c'est pas du tout moi, j'ai pas du tout grandi dans une famille où on faisait des grands campings ou du truc à vélo et tout, c'est pas du tout l'ambiance, quoi. Nous, c'était les voyages sympas, à la plage, à l'hôtel, à la montagne. On fait beaucoup de rando, donc moi, j'ai fait énormément de rando dans les Calanques, ça, oui. Mais je détestais la randonnée, d'ailleurs, je faisais tout dans la gueule. Mais ouais, maintenant que j'ai un travel...
Et puis ça
même le vélo de route, hein. Même le vélo de route, moi j'adorais aller à la Gineste et me faire la Gineste quand même, c'est mythique quoi, ou la route des Crêtes, mais c'est juste pas possible. Bon après Marseille, c'est quand même un peu la jungle, hein. Je dois avouer que je suis pas trop tentée de faire du vélo dans Marseille, mais bon, j'aimerais bien quand même une fois emmener mon vélo chez mes parents et aller faire du vélo, mais ouais, eux pour l'instant c'est non quoi, j'ai pas envie de les stresser, donc je fais une structure de la famille, ma mère est italienne, il y a quand même l'autorité parentale très forte. Donc, tu fais pas ce que tu veux, quoi. Même si t'as passé l'âge de 30 ans, t'es toujours un morveux, hein. Donc,
voilà, quoi. Ah, mais tu me dresses le portrait de la mère italienne. Sans rentrer dans les détails, j'ai l'impression que ta mère et la mienne pourraient très très bien s'entendre.
Voilà. Non, mais c'est plein d'amour et tout. Mais c'est quand même, la catastrophe et le drame est toujours, à l'angle de la rue, quoi. Faut faire attention. Mon papa, c'est pareil. Mon papa, grand angoissé aussi. Je sais pas si t'as entendu ce qui s'était passé pendant la RAF, mais il a quand même, au milieu de la nuit, il a pris sa voiture et il a essayé de m'empêcher de continuer la course.
Oh non, mais là, par contre, la scène d'hystérie à l'italienne, tu sais.
Ah, vraiment, non, tu ne peux pas, tu vas déchirer la famille, tu ne peux pas continuer et tout.
Je t'avais arrêté, quoi. Ah non, mais en fait, moi, ça va, je m'en sors bien finalement parce que mes parents adorent le vélo.
Ouais.
Ah, ils adorent ça, donc c'est pas un souci.
Non, moi dans ma famille pas du tout. Ma grand-mère qui me sort tout le temps, tu pourrais pas faire du tennis comme une fille. Je suis fait,
oh là là. Oh, putain. mamie.
Voilà. Non, mais après j'ai pas envie de donner une mauvaise image. C'est juste qu'ils m'aiment, qu'ils ont juste très peur, quoi. Voilà, c'est tout.
Oui, mais maintenant t'as quand même. C'est pas comme si t'avais commencé le vélo il y a 3 semaines. Je veux dire, maintenant ils savent que t'es en sécurité, que tu fais attention, que t'as pas eu d'accident gravissime, que t'as pas risqué ta vie de manière inconsidérée. Alors si je t'emmène faire du gravel dans le Verdon, par contre, peut-être que tu vas risquer ta vie de manière inconsidérée.
Ouais, c'est beau le Verdon pourtant. Hein. Ouais.
Ça secoue un peu, étonnamment. Ouais. Ça secoue un peu, mais c'est vrai que quand t'arrives au-dessus de Moustier, c'est dingue. C'est complètement.
Ah ouais, j'adore. Moi, ma famille à l'origine, ils sont près d'Allemagne en Provence, donc c'est pas loin.
Ah mais oui, mes parents sont à Oraison. C'est
ouais,
à côté.
Voilà. Non, on est à Saint-Martin-de-Brome. Voilà. Donc ouais, je connais beaucoup la région. C'est absolument magnifique, quoi.
Bah, dis donc.
C'est très sympa d'avoir un vélo là-bas.
Je m'attendais pas à ce qu'on ait autant de points communs, tu sais.
Ah bah, voilà.
Si tu me parlais, avant de revenir un petit peu sur toi, j'aimerais faire une petite parenthèse sur ton mari. Tu me dis qu'il est cyclotouriste. Il y a quand même une grosse tradition cyclo chez nos amis anglais. Il est pur anglais, il est pur londonien.
Il n'est pas londonien parce qu'il est un peu son papa, il est pasteur en fait, donc il a vécu un peu partout en Angleterre. Mais oui, son papa est nord-irlandais, sa maman est polonaise. Mais bon, oui, il est très britannique.
Hein. Il est très britannique dans son attitude et oui, il y a quand même une grosse tradition cyclo quand même. C'est, oui. Ça vient un peu de là pour lui ou pas?
Je suis pas sûre, c'est possible. En tout cas, c'est pas ses parents non plus, hein, qui l'ont initié au vélo. Ça dit, on est en train de convertir son papa maintenant, ce qui est sympa à la retraite. Non, pour lui, je pense que c'était plus le besoin d'aventure et le besoin de solitude au départ, en fait, pour lui, le cyclotourisme. Et le fait d'être, c'est quelqu'un qui est très très actif et qui a toujours fait énormément de VTT en forêt, de gravel. En gros, d'ailleurs, c'est pour ça que lui, il déteste la nouvelle tendance qu'il y a. Ouais, j'ai fait du gravel et tout, il fait du gravel, fais-moi, c'est le vélo, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai toujours fait, quoi. Donc, pour lui, il voit pas pourquoi, voilà. Il est arrivé assez tard sur la route en tant que tel. Non, mais lui, il a commencé à 18 ans. Il a voulu partir après avoir fait, l'équivalent de son bac. Et il a fait le Land's End to John O'Groat. Donc, ça, c'est le jog. C'est la route classique du cyclotourisme en Angleterre. C'est en gros, on va du point le plus au sud au point le plus au nord. Et ouais, puis à partir de là, en fait, ce qui, ce que lui dit, c'est que quand on fait ce genre de grand voyage par soi-même et qu'on a une espèce d'esprit d'aventure et d'indépendance, ça change en fait mentalement, totalement. Et c'est ça qu'il aime en fait, c'est l'introspection et le temps qu'il a dans ces voyages-là et ce que ça lui apporte après dans sa vie personnelle. C'est un peu ça en fait. Je sais que c'est très profond, mais...
Non, mais c'est hyper intéressant. Quand vous vous êtes rencontrés, il t'a raconté ces trucs-là, il t'a expliqué ces aspects-là?
Alors, il m'a tout de suite raconté, ouais, parce que lui, il avait un rêve depuis toujours qui est de faire un tour du monde à vélo. Et d'ailleurs, il était avec quelqu'un avec qui il est resté pendant, je crois, 7 ou 10 ans. Et cette personne, enfin, ça la rendait complètement folle. Il disait complètement inconscient, etc. Et c'est une des raisons pour laquelle ils sont pas restés ensemble. Donc, très, très tôt, il m'a dit, moi, j'ai vraiment une passion pour le vélo et tout ça. Et c'est vrai que moi, en même temps, je pense que ça m'a aussi poussé à dans ma pratique, parce que je me suis dit, si je veux aussi partager quelque chose avec David, quelque chose de sain aussi, parce que moi j'aimais bien l'idée de faire quelque chose en couple qui n'est pas juste sortir au resto, quoi. Ça serait quelque chose d'assez formidable. Et justement, moi j'ai toujours admiré les gens qui prenaient ce genre de risques, parce que pour moi, justement, venant de là où je viens, c'est vraiment des trucs de fou, quoi. Donc ouais, on en a tout de suite parlé. Moi, ça m'a tout de suite enthousiasmé, quoi. Donc voilà.
Et est-ce que maintenant, avec le recul, avec tes, disons, 3 années de pratique, c'est ça ? Est-ce que tu t'arrives à remettre ces sensations-là, ces explications-là sur ta propre pratique, ou tu en es arrivé à tes propres conclusions un petit peu différentes de celles de David ?
Oui, moi, souvent j'ai l'impression, surtout plus dans la pratique du vélo de route, lui, il est très souvent dans justement l'esprit très très compétitif, il faut s'en mettre plein la tronche et tout. Moi, je dois avouer que j'ai quand même, peut-être parce que justement je suis plus toute neuve dans le monde du vélo, j'aime parfois juste sortir pour le plaisir de rouler sans aller vite, juste parce que je suis juste bien, quoi, sur mon vélo. J'ai besoin parfois d'avoir ce moment-là, mais après, ça se rapproche de ce qu'il disait sur le cyclotourisme, parce que pour moi, c'est presque, j'appelle ça, je vais faire un peu de méditation, en fait. Et je vais faire du vélo, mais genre, je roule et je me détends. Mais je suis arrivée à peu près aux mêmes conclusions, moi, surtout au niveau, de mes expériences dans l'ultra. Parce que j'étais quelqu'un, justement, qui prenait pas de risques, qui était assez angoissé, qui reportait beaucoup au lendemain ce que je pouvais faire le jour même, en fait. Et c'est vrai que d'avoir fait l'ultra, de m'être mis face à la difficulté et de faire le saut, en fait, et ça m'a rendu beaucoup plus courageuse dans ma vie de tous les jours. Et maintenant, je fais le saut pour plein de choses, en fait. C'est-à-dire qu'avant, il fallait que j'appelle quelqu'un. J'ai dit, je vais attendre encore un peu. Je ne vais peut-être pas les contacter. Ça va peut-être les déranger. Maintenant, je vais dire, j'appelle. J'y vais. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Rien. Parce que voilà, je pense qu'une fois, que tu as survécu à des trucs absolument horribles sur la route, ça donne pas mal de confiance en toi. Voilà.
Et ça, tu en manquais ?
Ah oui, j'en manquais beaucoup. Ouais, j'en manquais. J'en manquais énormément.
C'est quand même étonnant parce que, bon, enfin, excuse-moi de te le dire ainsi, mais bon, t'as un parcours scolaire plus que brillant. T'as pas manqué de confiance pour faire de bonnes études et pour aller bosser dans la banque d'investissement. Donc pourquoi en manquer dans le sport ?
En fait, il faut savoir que les gens qui sont très forts à l'école et tout, c'est aussi des gens qui, justement, fonctionnent très bien dans un milieu vachement cadré, en fait. C'est pour ça que tu vois des gens qui sont brillants et qui sont très intelligents, qui font pas de belles études ou de bob, parce que c'est pas un milieu qui finalement leur convient. Et ces gens-là, généralement, après dans la vie, s'en sortent très très bien. Moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas très sûr d'elle. Je me mettais énormément la pression. Non, mais quand j'y repense à l'école, je pleurais si j'avais un 14 en maths, quoi. J'étais vraiment l'élève que personne pouvait saquer, quoi. Parce que la nana, elle fait sans moi, elle a 14, moi j'ai eu 9, quoi. Elle nous saoule.
Attends, moi, je faisais la fête pendant 3 semaines quand j'avais 11.
Donc, c'était un peu ça l'ambiance. Moi, je me mettais vraiment, et puis il faut que je sois la meilleure. Et le truc, c'est que c'était même pas vis-à-vis des autres, c'était vis-à-vis de moi-même. Et je n'arrivais pas vraiment à l'expliquer. Même mes parents, ils n'arrivaient pas à l'expliquer parce qu'eux, ils m'ont jamais mis la pression. Mes parents, vraiment, le seul truc pour lequel ils m'ont un peu mis la pression, c'est pour mes choix d'études parce qu'ils ont dit non, mais peut-être, tu sais, la finance, ce serait pas mal parce que tu gagneras bien ta vie. Mais à part ça, non, ils m'ont jamais mis la pression. Et je pense qu'une fois que je suis sortie justement du cadre scolaire et du cadre un peu universitaire et que je me suis retrouvée dans la vie active, et je me suis sentie vachement paumée en fait. Je me suis dit mais il y a un gros vide. Je fais quoi maintenant ? C'est ça la vie. Et je pense que j'ai un peu commencé le sport au départ, c'était la course à pied, à cause de ça en fait, parce que ça me stimulait, ça me donnait quelque chose de qui pouvait me challenger, qui pouvait me cadrer en fait. Moi j'aime beaucoup les plans d'entraînement, les choses comme ça. J'avais besoin de ce cadrage autour de moi en fait. Donc moi ça, le sport ça m'a permis de me construire. Et après, le vélo, c'est le côté extrême, en fait, et le fait de m'être vraiment mise à mal et de je pense que ça m'a aidé à gagner de la confiance en moi. Je sais, ça étonne les gens parce que je parle beaucoup, que je suis très extravertie, etc., mais pourtant, ouais.
Ouais, j'allais te le dire. Qu'est-ce que tu parles? J'en ai interviewé des bavards, mais alors là, toi, t'es dans le top 3. Hein. Non, je rigole.
C'est une longue phrase, ça
s'étend. Non, t'inquiète pas. C'était le vélo, ou ça aurait pu être n'importe quel autre sport, il fallait juste un moyen d'expression? Parce que ça devient un moyen d'expression à ce niveau-là.
Je pense pas, parce qu'il y a que, pour moi, enfin, après, je me trompe peut-être, mais... Oui, alors après, il y a peut-être des sports qui sont dans le même genre, peut-être l'équitation, j'en sais rien, mais ça m'a jamais tenté. Non, moi, c'est vraiment... Ce que j'aime dans le vélo, c'est que c'est plus qu'un sport, en fait. Il y a une culture, j'ai un monde que je connaissais pas du tout. Et très rapidement, ce que j'aime avec le vélo, c'est que ça commence à prendre le dessus sur plein de parties de ta vie, en fait. Tes vacances, ça vient du vélo. Tes amis, ça vient des amis du vélo. Ta conversation, c'est toujours autour du vélo. Oh, tu fais quoi demain? Ben, moi, je sors. Oh, quel vélo tu vas acheter? Puis, il y a le côté aussi, toute la mécanique, tu vois. Qu'est-ce que tu vas? Une nouvelle roue, une nouvelle gêne, un nouveau groupe 7. Enfin, à ce côté-là, puis il y a toute la culture, le café, etc. Et surtout à Londres, enfin, c'est ce que j'allais te dire,
c'est que tu as commencé le vélo à Londres, où il y a une culture vraiment très particulière. Je vois ton activité sur Instagram. J'allais même te demander si des fois tu roules vraiment ou si tu t'habilles juste avec ton vélo pour aller aller à la boulangerie.
Oh non, c'est clair, les sorties avec les copains, c'est toujours, il y a vraiment des cafés de cyclistes, quoi. Pour ça, Londres, c'est absolument extraordinaire. Après, ça me manque peut-être, c'est ce que j'ai vu cet été quand j'ai fait le Tour de France, ça manque peut-être justement du côté plus populaire et plus bon enfant qu'il y a peut-être toujours en France. Il y a un côté plus élitiste du vélo en Angleterre, je trouve, par rapport, en tout cas à Londres, par rapport à la France. Je pense que c'est différent dans le Yorkshire, etc., qui sont vraiment plus là où les racines du vélo se trouvent en Angleterre. Mais à Londres, il y a un côté, c'est un peu poche, comme on dit en Angleterre, le vélo, quoi. Ce qui est assez marrant, parce que alors qu'en France, nous, pas du tout, c'est très populaire. Hein, je veux dire, Tour de France, c'est sponsorisé par Cochenou, comme disait un de mes amis français récemment, quoi. Donc, c'est pas du tout... Ça se veut pas élitiste en tant que soi, même si bon, il y a quand même des coûts liés au sport, quoi.
C'est sûr que dans les très grandes villes, le vélo est devenu, enfin, on va pas ressortir la vieille expression, enfin, qui est devenue très vieille maintenant et limite ringarde, qui est plus tout à fait vrai. Le vélo, c'est le nouveau golf. C'est sûr que ça a ouvert la voie au vélo très très cher, aux fringues très très chères, qu'on connaissait pas avant. Et la brèche a été ouverte mi-2000 par Rafa. Et à partir de là, il y a plein de marques qui se sont engouffrées dans l'idée de vendre des vélos à 10 000 boules pour les chefs d'entreprise, pour les cadres, les maillots à 250 €, alors qu'en fait, pour rien du tout. Et toute la myriade de marques qui s'est créée autour de Rafa et qui a vraiment fait un très bon boulot, même si je suis pas forcément super fan, mais par contre, je suis admiratif du travail qu'ils ont réalisé et de ce qui a été fait. Et d'ailleurs, à ce sujet, si ça t'intéresse, je t'enverrai l'interview du fondateur dans Cycling Tips, qui est super, super, super intéressante. Et ça, il évoque justement aussi toute cette idée romantique, en fait, du vélo. Et c'est ce que tu viens de dire, c'est que les racines du cyclisme sont en Europe, mais plutôt France, Belgique, Italie, Espagne. L'Angleterre a cette vision encore un petit peu vintage et bêtement romantique, tu vois, Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, tout ça. C'est quelque chose qui est dans la culture vraiment française ou italienne, etc. Mais pas en Angleterre. En Angleterre, il n'y a que Tom Simpson, le pauvre.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Donc, il n'y a pas de grande légende, et ça a changé récemment avec Sir Bradley Wiggins et Chris Froome, hein, et Geraint Thomas, mais ça reste contemporain, je veux dire,
ça a été longtemps l'enfant pauvre, en fait, mais c'est pas vrai que British Cycling, ils se sont investis comme des fous, quoi, donc je pense que maintenant, il y a énormément de nouveaux talents qui arrivent, et ça changera, mais ouais.
Comment tu t'es dit Tiens, bah maintenant je vais faire des compétitions et je vais faire de l'ultra alors que t'aurais juste pu faire des coffee rides et des social rides, ça aurait été très bien. Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans le côté obscur de la force ?
Bah, c'est un peu difficile en fait. Bon, la compétition, j'ai commencé tout de suite à en faire un peu. Alors que moi, je suis quelqu'un qui aimait pas du tout la compète dans le sport. Hein, faut le savoir. Même quand j'étais petite, j'arrêtais souvent de faire du sport parce que justement, j'aimais pas la compète, ça me stressait. donc moi, j'ai commencé à faire des crits à Londres et tout de suite, j'ai trouvé que ça jouait pas du tout dans mes forces en fait et ça, c'était pas forcément le reflet de ce dont je me sentais capable de faire sur un vélo parce que je me voyais faire des sorties longues le week-end ou avec des mecs où en gros, à la fin des 180 km, ils étaient rétamés et moi, ça allait quoi. Et c'est là où je me suis dit, mais il faut que je fasse autre chose. Et j'ai juste commencé à faire des Audax, en fait. J'ai entendu parler des Audax via mon club de vélo. Parce que justement, ben, y a des types qui m'ont vu rouler, ils m'ont dit, mais toi, il faut que tu fasses des Audax, ça va te plaire, etc. Donc, j'ai commencé à faire des Audax. Ça m'a tout de suite plu. Et après, le monde de la course ultra, j'y pensais pas forcément jusqu'à, en fait, il y a eu, ben, justement, Hero in Bike qui offrait, en fait, d'avoir un de leurs vélos pour faire la Race Across France. Et c'est un ami à moi qui m'a dit, moi, je pense que tu devrais postuler, avec les sorties que t'as fait et tout, ça va le faire, quoi. Et ben, je l'ai eu. Et à partir de là, j'ai vraiment découvert vraiment la course ultra. Et ça m'a tout de suite plu, quoi. Voilà. Donc maintenant, j'essaie d'en trouver de plus en plus, évidemment. Malheureusement, voilà, cette année, j'en ai fait, mais bon, c'était limité, quoi, parce que avec Covid, ça nous a un peu arrêtés, quoi. Voilà.
Ben ouais. Donc t'as fait des crits. Pourquoi tu m'en parles pas ?
Parce que c'est pas ma passion, quoi. Les crits, moi, je m'ennuie au bout de... Alors déjà, les 10 premières minutes, ça me gonfle. Je suis là, oh là, mais c'est le bordel, ça va à droite et à gauche, il y en a un qui crache et tout. Et après, quand je commence à m'échauffer, presque, ça s'arrête. Après 30 minutes, ça y est, je suis bien, et là, boum. Non, mais c'est sympa, c'est juste un format qui est quand même particulier. Moi, j'ai l'impression d'être dans une voiture de kart, quoi, parce que le crit... C'est sur des circuits fermés. Nous, on a vraiment des circuits de crit à Londres, donc fait pour ça. Et oui, non, c'est pas mal, mais c'est bon, voilà, ça me plaît moyen. Après, moi, je vais continuer à en faire. Là, il y a des équipes qui se forment, etc. Moi, j'aime bien l'idée, en fait, de faire de la course par équipe. C'est pour ça que j'avais vraiment l'intention cette année de participer aux Coupes de France en National 2 avec de nom des Allo-Vélo, mais donc, je n'ai pas pu, malheureusement, parce qu'il y a eu Covid. Mais moi, c'est plus ça qui m'intéresserait, c'est faire de la course sur route et où il y a vraiment une équipe et on a une stratégie et on joue ensemble dans la course, en fait, plutôt que d'être en solitaire en mode critérium. Ça, c'est moins ma tasse de thé. Voilà.
Donc, ça t'intéresserait de te mettre à la course sur route? C'est marrant parce que généralement, ça serait plutôt l'inverse. D'avoir débuté avec des courses, avec des cyclotouristes, des cyclosportives, ouais. Et de se tâter sur l'ultra, plutôt que le sens inverse. T'es plutôt dans une dynamique d'exploration de tes capacités. Maintenant que tu sais que tu peux aller loin, pas vite, t'as envie de voir si tu peux aller vite, pas longtemps? Sur une distance plus raisonnable.
Ouais, voilà, sur un truc du genre entre 80 et 120, comment ça se passe. Et puis après, c'est complètement différent aussi, parce que il faut être un peu malin, il faut savoir où se placer, est-ce qu'on part dans l'échappée ou pas, etc. Moi, je pense que j'ai un profil plutôt rouleur, donc je me vois bien être en mode super domestique, à faire tout le boulot, à bien me défoncer la tronche, pour à la fin emmener une de mes coéquipières pour passer la ligne, quoi. C'est un peu ça l'idée, moi, pour moi. Mais
toi, tu te vois plus dans une optique d'équipière plutôt que de leader.
Ouais, alors moi quand je dis ça, c'est quand je dis ça à mon mari tout le temps, lui ça le rend fou, il dit mais non, toi t'es un GC contender, il me dit tout le temps, je fais ouais, bon, mais on verra pour l'instant.
Bah, par contre, faut que tu traduises parce qu'on parle pas tous anglais, je le comprends, mais quand même.
Ouais, comment on dit un grand dans le classement, quoi, voilà, c'est-à-dire que je serai dans le classement, c'est ce qu'il veut dire, quoi, que je serai, s'il y avait des courses par étapes. Lui, il pense que j'aurais des chances d'avoir un maillot jaune, quoi. Là, c'est un peu l'idée.
Bah, il croit en toi, déjà. Il est sympa, quand même. C'est quand même déjà pas si mal. C'est pas si mal. Est-ce que tu crois que tu pourrais assouvir ta passion vraiment à ce niveau-là si t'avais, bah, comme lui, c'était le cas dans sa précédente relation avec quelqu'un qui n'aime pas ça du tout?
Non, ce serait pas possible.
Pourquoi?
Parce que ça prend trop de temps. Le vélo, c'est pas comme la course à pied où tu vois, tu pars rapido et puis tu peux quand même faire des distances ou au moins un effort physique important sur des périodes un peu courtes. Le vélo, c'est sûr, c'est pour ça que je dis pour l'instant j'ai pas d'enfant, donc c'est plus facile. Mais le vélo, c'est tu pars 4 heures le dimanche matin, quoi. Enfin, si t'es avec quelqu'un, enfin qui a envie d'être avec toi, de passer du temps, d'avoir un petit déj. Ça passe pas, quoi. Enfin, moi, je pense que ça serait assez difficile. Ce que je trouve un peu injuste, alors après, j'ai peut-être une vision biaisée, mais moi, je vois beaucoup d'hommes qui font ça et leurs femmes, bon, ben, ça va, ça passe. Mais je connais pas beaucoup de filles qui font ça et leurs mecs, ça passe. Alors là, j'en parlais justement récemment avec une de mes amies qui est en couple et lui, ça le gonfle. Hein. Donc, elle m'a dit, il va peut-être falloir que je rompe avec lui parce que vraiment. Ah, ouais.
Donc, c'est le vélo avant le mec.
Ah bah à ce point, oui, parce que ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble, c'est pour ça.
Ah bah mais voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est parce que c'est pas le bon aussi, il est nul.
C'est parce que c'est pas le bon. Après, ou alors il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui ait une passion similaire. C'est-à-dire, par exemple, moi, David adore la course auto. Si, voilà, il pourrait peut-être plutôt bifurquer vers la course auto plutôt que le vélo, sauf que je lui dis, on n'a pas les moyens pour l'instant, ça coûte très cher. Mais voilà, je pense que si on avait quelqu'un qui a une passion aussi dévorante, ça peut passer, je pense. Mais ouais. Voilà, ça c'est peut-être pas obligé d'être le vélo, c'est mieux si c'est le cas, parce qu'à ce moment-là, on peut faire les choses en couple. Mais ouais, je pense qu'il faut, nécessairement quelqu'un qui comprenne, quoi. Voilà. Mais même lui, ça le gonfle, hein. On est des fois.
Ah,
on est
par... quand même!
Non, mais oui, par exemple, je suis partie en vacances avec lui et le challenge, c'était pendant une semaine, j'avais pas le droit de parler de vélo. Ça a été dur. Hein.
Et tu as tenu 4 minutes.
Non, j'ai tenu. Mais de temps en temps, je commençais, j'étais là, ah oui, mais d'ailleurs. Et là, je m'arrêtais. Il a fait téléparler de vélo, j'ai dit, ouais, j'allais parler de vélo.
Je connais ça, t'inquiète pas.
Voilà.
J'ai la même à la maison. Ce matin, j'ai eu une réflexion à 8h du mat, elle me regarde, elle me fait, il est 8h.
Ouais.
Arrête, il est 8h.
Mais c'est vrai que c'est bizarre quand même, je comprends pas.
Sachant que nous, on a 2 enfants, donc à 8h du mat, tu vois, c'est nounou école, on a autre chose à glander.
Ouais, c'est clair.
Donc on a autre chose à faire et à penser que ce genre de réflexion. Mais c'est non, ça m'arrête pas, j'arrive à quand même mener le bain, la purée, la compote et avoir des réflexions à la con, c'est pas un problème.
tu multitask.
Voilà. Ouais, vaguement, hein, parce que j'ai quand même foiré la compote.
Ah merde.
Dis-moi, cette année, tu as fait quoi?
Alors, moi, cette année, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Bonne question. J'ai fait le tour. Je suis allée dans les Alpes, ça c'est des vacances, mais ça compte pas. J'ai refait les cinglés, c'était sympa. J'ai fait le Tour de France, un mois avant les hommes. Et ensuite.
Toute seule ou avec une orga?
Alors, je l'ai fait avec Donnant des ailes au vélo, qui est à l'origine donc le club qui a créé le principe du J-1. Hein. À l'origine, ça se fait un jour avant les hommes. Bon, là, cette année, à cause du Covid, etc., elles ont décidé de le faire ça un mois avant. Et ça s'est très bien passé, c'était top. Et ensuite, j'ai fait All Point North, qui est une course avec un tracé libre dans le nord de l'Angleterre, qui est à peu près entre 900 et 1000 km et qui passe par 10 points, en fait. Donc, ça fait faire tout le Yorkshire, les Yorkshire Dells, les Yorkshire Moors, c'était l'Écosse. Ça a été assez dur.
Pourquoi?
mais je l'ai fait. Tu vois, autant la RAF, quand je l'ai fait, c'est y a une diversité de paysages, c'est les Alpes, c'est ouvert, c'est ensoleillé. Là, tu vois... Je suis partie de Sheffield à 1h du matin, donc là tu vois rien, bon c'est une chose. Mais après, comment dire, la mort anglaise, une fois que t'as vu, t'as tout vu quoi. Comment dire, c'est aride, il y a des moutons.
Ouais.
Et c'est raide, mais c'est tellement raide. En fait, l'anglais est très feignant, c'est-à-dire que lui, la route enlacée, ça le gonfle. Si l'Alpe d'Huez était en Angleterre, tu vois, ils auraient fait un tracé tout droit à 50%, et ils auraient dit, c'est bon, ils vont totalement s'en sortir, il n'y a pas de problème, tu vois. Alors du coup, tu tapes des trucs, tu regardes d'un seul coup, 28%, tu vois, tiens, j'en peux plus, quoi. Tu craques. En plus, moi, j'étais en semi-compact avec une cassette de 28, franchement, j'ai souffert, quoi. Mais bon, voilà, et puis après, bon, il pleut, et puis du vent, quoi. Du vent tout le temps, de face, mais je craquais, quoi. Voilà, après, voilà, donc je pense que c'était mentalement difficile. puis c'était que 3 jours, donc ça, j'ai tenu quand même. Mais ouais, ça a été costaud, quoi. Tu vois, dès que pendant que je le faisais, je me suis dit, bon, allez, là, c'est la dernière fois que je m'en fais, là, pour au moins un an. Et puis maintenant, je suis déjà en train de penser aux prochaines, donc.
C'était quand, ça?
Ça, c'était en septembre, là, fin septembre.
Comment se fait-il que t'aies été aussi surprise par ton environnement? Parce que bon, t'es en Angleterre depuis longtemps, t'es une grosse rouleuse, et pourtant j'ai l'impression que sur juste 3 jours, t'as été super en difficulté pour un truc que tu maîtrises et que simplement tu t'es...
J'étais pas en super difficulté. Bah déjà, moi, je suis dans le sud de l'Angleterre, donc ouais, j'ai du roulant et j'ai quelques grosses côtes. Dans la partie sud, mais dans le Kent, etc. Mais après, moi, là où je suis, c'est très roulant, c'est plutôt plat, hein. Le Hertfordshire et l'Essex, c'est pas le Yorkshire, hein, soyons bien clairs. Le Yorkshire, c'est très très ondulé aussi, donc moi, je préfère quand même un bon col alpin que de l'ondulé comme ça où tu peux pas vraiment prendre ton rythme. Après, moi, je connais pas forcément très bien le nord de l'Angleterre, ben parce que je suis mariée à un Anglais et que lui, quand il veut aller en vacances, il me dit, ah non, moi, j'ai pas d'Angleterre. Hein. Non, mais on va dans le sud. Il dit, j'ai épousé une Française, on va dans le sud de la France. Hein. Ah ben non. Tout de suite. Hein. Lui, c'est les Alpes, c'est le sud de la France, c'est la Côte d'Azur.
La Costa Brava, la caravane.
Lui, ça l'intéresse pas d'aller en Écosse, quoi. J'ai un moment, il avait dû aller faire un truc pour son travail à Édimbourg. J'ai réussi à le convaincre de faire un petit road trip sur l'île de Skye. Et je dis, mais c'est magnifique. Moi, je sais, ça me saoule, tout se ressemble. D'accord. Voilà, c'est pas son délire, quoi. Voilà.
Donc c'est pas un gros gros fan de James Bond en plus.
Ah si, il adore James Bond.
Et il avait pas envie d'aller voir un petit peu les routes dans Skyfall par exemple.
Ouais, mais enfin, il l'a vu parce que lui, comme j'ai dit, il a déjà sillonné quoi l'Angleterre. Donc moi, ce que je lui dis tout le temps, j'ai dit, mais moi, je ne l'ai pas vu, donc je voudrais le voir. Voilà. Donc c'est plutôt ça en fait. Voilà.
Tu es où toi t'es dans Londres ou tu es à côté?
Non, je suis dans Londres. Après, je suis quand même sur une partie un peu périphérique. Moi, donc au moment des Jeux Olympiques de Londres, ils ont vraiment réhabilité tout l'est de Londres, donc ce qu'on appelle Stratford. Donc il y a le parc olympique qui est là, il y a le vélodrome, etc. Et moi, j'habite près de ce parc en fait. Donc je suis en périphérie, mais je suis dans Londres. Oui, j'ai le métro, j'ai tout. Voilà.
D'accord. Et ces petites vacances aux Canaries, c'était comment?
Ah, c'était top. C'était la troisième fois que j'y allais. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Après, il faut aimer grimper, hein, parce que là, il n'y a pas d'option. Hein. Ça monte. Voilà, non, j'aime beaucoup Tenerife. Ce que j'aime par rapport à Tenerife, par rapport à d'autres endroits comme Majorque, c'est que il y a peu de cyclistes en fait, et c'est pas l'autoroute, parce que c'est vrai que quand tu fais sac à leur bras, etc., il y a tellement de monde que c'est gonflant, tu peux pas vraiment profiter, avoir et t'évader, alors que Tenerife, surtout là en période justement de pandémie, c'était calme, quoi. Voilà, non, c'est magnifique.
T'as fait combien pendant ta semaine? Parce que j'ai jeté un petit œil à ton Strava, j'ai aperçu une sortie de 200 bornes.
Ouais.
Ça fait une semaine à combien?
En tout, on a dû faire entre 800 et 600 bornes, ouais, je pense quand même. Peut-être plus, je sais plus. Ouais. Après, on a fait les sorties, on a essayé de faire des sorties. On a fait une sortie à 200 bornes. Après, moi, mes copines, c'est pas du tout dans le mode ultra, quoi. Donc, elles ont un peu craqué sur cette sortie-là. Donc, après, on a fait des sorties plus courtes. Genre, ouais, 120 et quelques. Après, le truc, c'est qu'il y a quand même si tu fais 120 à Tenerife, tu fais 4000 mètres. Hein, donc, ouais. C'est quand même bien. Voilà.
C'est pas anodin non plus. C'était entre filles.
Ouais, c'était un séjour entre filles, voilà.
C'était vacances ou c'était un truc organisé?
Non, c'était entre vous. Parce ouais, que voilà. Honnêtement, on était toutes, on a eu enfin un couloir aérien ouvert vers Tenerife, donc tout le monde était là. Non, non, mais il faut absolument y aller avant qu'il y ait un nouveau Covid et qu'on puisse plus voyager, quoi. Ouais. Donc du coup, ouais, généralement en Angleterre, c'est assez commun. Au moment de novembre et février, on essaie vraiment tous d'aller en Espagne, en fait, pour faire du vélo. Et du coup, là, Tenerife, on a dit, c'est parti, on y va. Et donc, on avait deux autres copines qui devaient venir avec nous. Et au moment, en fait, où on a réservé nos billets d'avion, il y a Boris qui a annoncé qu'on repartait en mode lockdown, donc isolement, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que ça avait commencé le samedi, le jour où je devais partir. Donc, du coup, j'ai appelé mon patron, je lui ai dit, écoute, je bouge mon vol à mardi, comme ça je peux quand même partir et je vais travailler depuis Tenerife pour la première semaine. Et il m'a dit, bon, bah d'accord.
Il a dit banco. Et puis
ça
voilà.
Bah, c'est l'avantage de cette année, c'est que maintenant tout le monde travaille depuis chez soi. Honnêtement, que tu travailles depuis Londres ou depuis Tenerife, tant qu'il n'y a pas de décalage horaire, ça fait zéro différence pour eux en fait. Donc, ouais. Voilà,
j'ai l'impression à t'écouter que tu es très branché matériel. Tu vois, t'entendre parler de ta cassette compacte de 28, tu m'as dit ça sans l'ombre d'une hésitation. J'ai l'impression que tu passes beaucoup de temps à décortiquer le matériel et j'ai tort ou pas?
Non, je suis pas spécialiste. Après, moi, j'aime bien savoir avec ce avec quoi je roule. Et puis surtout, je pense que ben quand tu fais de l'ultra aussi, tu dois quand même un petit peu apprendre la mécanique de ton vélo parce que ben tu vas peut-être avoir des problèmes sur la route et il faut savoir réparer. Voilà. Mmh. Le seul mystère que j'ai pas encore vraiment réussi à résoudre, c'est tout ce qui concerne l'électronique, le DHU. Il y a rien à faire. J'y arrive pas, quoi. J'ai beau regarder des vidéos, je dis, mais je comprends pas, ça fonctionne pas, j'arrive pas à la réajuster, alors que du bon vieux truc mécanique, tu vois, j'y arrive, ça me plaît, je sais faire, DHU, j'ai du mal, quoi. Voilà. Mais j'adore, hein, c'est-à-dire, j'ai du DHU sur mon, du DI2, pardon, sur mon Pinarello, et c'est top, mais ouais, j'arrive pas, je peux pas l'ajuster moi-même, quoi, j'ai du mal. Voilà.
Et ça te stresse.
Ça me stresse. Non, mais vraiment, voilà. Quand j'étais à Tenerife, là, je suis restée. Non, mais quand j'étais à Tenerife, j'avais un problème dessus et il était, je pense, ça a dû bouger dans la boîte, dans l'avion, quoi. Et il restait bloqué sur du 26 et ça me gonflait, quoi. J'étais, mais non, monte sur la grosse cassette, quoi, sur le gros set, ça marchait pas. Donc, j'ai dit, bon, bah, tant pis, c'est pas grave, je vais faire tout comme ça. Et mes copines, elles étaient en mode compact, 32, quoi. Et c'est là, mais je sais pas comment tu arrives. Écoute, je force, je sors de la selle et puis je pousse et puis voilà, quoi. Mais c'était assez marrant.
En tout cas, bravo pour cette imitation de tes copines. Tu leur diras d'arrêter la clope quand même. si elles sont collées à vélo, c'est peut-être parce qu'elles fument trop. Là, il y a quelques jours, sur Insta, t'as mis une vidéo pour choisir ses fringues, etc. Tu peux m'en reparler un petit peu?
Ben oui, en fait, c'est parce que il y a pas mal de gens qui m'ont contacté parce qu'ils vont faire des courses similaires de celles que j'ai faites, en fait. Et donc, ils me demandent des conseils. Et du coup, je me suis dit, ben, plutôt que de à chaque fois répondre, pourquoi je ferais pas des petites vidéos pour aider un peu les gens? Donc, j'ai demandé, j'ai fait une espèce de sondage. J'ai dit, qu'est-ce qui vous intéresse? Et alors, d'abord, j'ai eu l'électronique, donc tout ce qui est les lampes, les choses comme ça. Et après, ouais, j'ai eu les, ça m'a un peu étonné d'ailleurs, j'ai eu les fringues. J'ai fait, ben, écoutez, si vous voulez, hein, moi, je vous dis ce que j'amène. Voilà. Donc après, je pense que j'en ferai un sur les sacs et sur le vélo en tant que tel. Ouais, les vêtements, moi simplement, je dis ma règle de, c'est très personnel, les vêtements. Mais moi, ma règle de base, c'est certains éléments, comme notamment, ben, je sais pas comment on appelle ça, le babe shorts, en français, c'est plus le caleçon. Le cuissard, voilà. Le cuissard, moi, j'en prends trois, toujours, parce que, mais même si je fais une course d'un mois, j'en prends trois. Parce que trois, c'est parfait. T'en laves un, il sèche. L'autre, il reste au sec dans ton sac. Et l'autre, tu le portes et tu fais tourner, quoi. Donc, si t'en as deux, ça marche pas aussi bien. Donc, trois, c'est le chiffre magique pour ce genre de choses. Voilà. C'était un petit peu le résumé vraiment de tout ça. Mais bon, après, voilà, j'ai un peu donné, moi, mais c'est vrai que ça aide, hein. Il y a des gens qui se demandent quel gilet est plutôt bien pour les ultras et tout. Moi, j'ai envie de dire, tu portes ce que tu veux, quoi. Enfin, tant que t'es confort et que t'es bien visible, ça se passera bien, quoi. Et puis après, il faut se préparer pour le froid. Le froid, c'est l'ennemi numéro un. Après, le reste, c'est tout, quoi.
Comment t'as appréhendé justement toutes ces questions? Parce que ce matin, j'ai fait un épisode avec un gros rouleur et on est arrivé à la conclusion que, et on a eu cette réflexion dans plein d'épisodes, que avec ces disciplines et ces pratiques naissantes, ça génère beaucoup de questions et que beaucoup devraient passer plus de temps à rouler et moins de temps sur les groupes Facebook à se palucher sur le matos et à se demander ce qu'il faudrait faire au lieu de le faire effectivement. Toi, comment tu as abordé justement, en étant totalement profane, en étant novice du cyclisme et de l'ultra, comment tu as appréhendé ces trucs-là? Parce que t'es parti direct dans le grand bain, t'as pas commencé entre le crit et la raf, il y a quand même, c'est quand même deux pratiques de vélo radicalement opposées. Donc on peut pas dire que ça t'ait aidé.
Ouais, non, c'est très vrai. Moi j'ai simplement pris mon téléphone et j'ai appelé Arnaud Manzanini pour lui demander pour poser quelques questions sur la course et après je suis allée prendre une bière avec un ami à moi qui avait de mon club. qui lui avait fait un ultra en Irlande, en lui posant quelques questions, en fait, que j'ai fait une liste des questions que j'avais, notamment moi, une de mes grandes questions, c'était est-ce que j'ai une dynamo ou pas, quoi. Enfin, c'était ma question torture, ça a été ça, moi. Finalement, je n'ai pas pris. Et voilà, je parlais avec lui et après, je me suis lancée et j'ai dit au pire. Je veux dire, c'est pas un ultra que je vais faire au milieu de l'Atlas marocain ou au fin fond de je sais pas où, quoi.
Oui, c'est quand même la France, quoi.
C'est la France. Donc, de toute manière, si vraiment c'est galère, je trouverai un Décathlon quelque part. Même, par exemple, moi, j'ai eu un problème hein, pendant la course. J'ai eu un énorme problème mécanique. J'ai fini par trouver... J'ai fait plein de petits dans Valoir. J'ai trouvé plein de boutiques de vélo. Il n'y en a aucun qui pouvait m'aider. J'ai fini par trouver un mécanicien ambulant qui est venu et qui m'a réparé le vélo, quand même. Donc voilà, il faut pas non plus flipper quoi. La France, ça va, tu trouves quoi. C'est pas le désert. Donc je me suis un peu lancée comme ça et j'approche un peu. Ben là, je prépare un truc assez gros l'an prochain et c'est un peu pareil. On s'y prend que maintenant vraiment pour préparer. Et il y a plein de gens qui me disent mais t'es malade, c'est un truc qui prend 2 ans. Je dis bon non, ça va aller, hein, on y va là. C'est fait quoi.
Tu te surprends pas à faire preuve d'autant de confiance et de même d'insouciance alors que depuis tout à l'heure tu me dis que t'es une flippée de la vie.
Ben, je le dois énormément à mon mari. Il faut bien que je le dise. J'ai un petit peu, moi, j'ai pas de coach ou quoi que ce soit, mais je suis avec quelqu'un qui a fait énormément de sport en compétition, qui est un médecin du sport aussi, donc il a quand même beaucoup lu sur le sport, etc. Et c'est un petit peu mon coach mental, quoi. Et ça, je lui dois tout le temps, et je lui dis, le vélo a changé ma vie, mais mon mari m'a changé moi aussi et en bien. Et ça, je dois vraiment le lui rendre. C'est quelqu'un qui est très posé et qui est très, comment dire, très rationnel. C'est-à-dire, quand je commence à stresser, il me dit, Caroline, ça sert à quoi de stresser, en fait? Ça va apporter quoi? Je dis, ben rien. Je dis, ben exactement. Chill. Il me dit, relax. Ça va aller. Il est très, Je sais que ça paraît fou, hein, mais ça a été un vrai travail sur moi-même, évidemment. Et justement, lui, c'est lui qui m'a poussé justement à prendre des risques, quoi. Quand je me souviens, quand je me préparais pour la RAF, il m'a dit, bah, allez, vas-y, va à vélo chez mes parents et puis tu rentres le soir, de nuit, quoi. J'ai dit, mais s'il m'arrive quelque chose, il dit, ben, tu sais, Caroline, dans la vie, il n'y a pas de... Lui, son idée, c'est qu'il y a... Tu peux pas gagner beaucoup sans prendre de risques, en fait. There's no rewards with no risk. C'est un peu le principe, même dans le monde financier, c'est ça. Il faut prendre des risques. Il dit, les gens qui accomplissent des choses, c'est parce que, ben, ils peuvent mourir, mais en même temps, ben, des choses terribles peuvent leur arriver. Mais si tu fais jamais rien, ben, à ce moment-là, ouais, reste sur ton canapé, quoi. Et, ta vie, ça se résumera à quoi? Ben, c'est sûr, tu mourras peut-être très vieux, mais. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Voilà, il est très dur comme ça. J'ai pas du tout un homme moi qui me dit, qui me rassure, qui me fait me sentir mieux. Non, c'est pas ça. C'est vraiment genre si un jour j'ai une course de vélo et que je veux pas y aller, il dit ouais tu te trouves des excuses en fait. T'es faible. Je m'en prends plein la gueule. Bon, j'exagère un peu. Hein. Mais moi, il me stimule énormément. Donc voilà, c'était ma petite dédicace pour mon mari. Quoi.
Voilà. Ben, ça fonctionne sur toi parce que moi, j'en connais une. Attends, je tends la tête. C'est parce que tout à l'heure, j'étais en conf et elle a débarqué dans mon bureau. Je ne l'avais pas vue. Je regarde, voilà, elle n'est pas là. C'est bon, je peux y aller. Si je lui parle comme ça, elle m'explose la tronche. Hein.
Ouais, ouais. Ouais, je pense que si mon père parlait comme ça à ma mère aussi, ils seraient pourris. Hein.
Donc ça te correspond finalement, t'as envie qu'on te stimule un petit peu.
Ouais, j'ai envie qu'on me secoue, j'en ai besoin. Ouais, ouais. Moi, un mec gentil tout le temps, je m'en irais.
C'est chiant ça, les gens gentils de toute façon.
Ouais, c'est que ça gonfle. Hein. Au bout d'un moment, non, mais il faut être fondamentalement gentil, mais il faut pas être un
bienveillant,
un béni oui quoi tout le temps, ouais. Sinon un peu ouais.
Bon, alors, du coup, on va faire une annonce commerciale. Pour vos relations de couple, appelez Caroline et Richard. Nous vous aiderons. On vous fera un prix, ne vous inquiétez pas.
Il n'y a aucun souci. Ouais, non.
Alors, il y a un petit truc dont je voulais te parler et te féliciter malgré tout.
Ouais.
C'est que la première fois que je suis tombé sur ton profil Instagram, parce que, alors j'ai pas de chance, enfin si, en réalité j'ai beaucoup de chance, c'est que la plupart des gens que j'interview en ce moment m'écoutent avant et je ne le savais pas. Et c'est en cours de route que j'apprends que je suis en train d'interviewer un auditeur Et là, je me dis, bah merde, j'ai quand même beaucoup de chance. Donc récemment, c'est ce qui nous est arrivé. Je suis allé voir le lien qui est sur ton profil Instagram et je me suis dit, eh ben celle-là, elle est quand même drôlement organisée parce que il y a tes différentes interventions en podcast, deux, trois trucs. Est-ce que tu es, en plus de ta pratique personnelle, dans une démarche de, alors je suis désolé, je vais devoir le dire en anglais, de personal branding, ou de recherche de sponsors, ou est-ce que tu aimerais finalement ne faire que du vélo et quitter temporairement la finance? Est-ce que tu es dans une démarche de création de quelque chose via les réseaux?
Potentiellement avec le temps. Par contre, pas tellement personal branding dans le sens que, ou alors en tout cas, et si on, enfin, pour reprendre depuis le début. Moi déjà, j'essaie d'avoir un petit peu un rôle d'ambassadeur déjà pour le vélo féminin. Donc c'est pour ça que j'ai fait le J-1. J'essaie de motiver les femmes à la pratique du vélo. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est sûr que plus j'ai un profil qui est public, ben plus ça va inspirer des gens et motiver des gens. Je suis pas du tout dans une démarche de monétiser mon compte parce que je trouve qu'en fait ça, ben, je déteste en fait les trucs du genre oui, tapez Caroline 123 pour avoir 15% sur les produits trucs. Enfin, oh, je supporte pas quoi. Je trouve qu'en fait ça appauvrit vachement le compte. Voilà, j'ai quelques ambassadeurs.
Ça décrédibilise un petit peu aussi le vélo féminin. Voilà.
Oui, il y a ça, oui, mais après, il y a aussi les hommes, hein. Ça, c'est totalement unisexe, hein, la pratique de faire ça.
Je le fais.
Mais c'est juste, moi, j'aime bien, par contre, oui, j'ai reçu des vêtements, des trucs comme ça. Si ça me plaît, j'en parle. Si ça me plaît pas, ben, j'en parle pas. Ou alors, s'il pousse, je dirais, je suis désolée, mais franchement, non, quoi, c'est terrible. Voilà. Donc, je suis plus dans cet objectif-là. Par contre, oui. C'est sûr que là, ben, sur certains projets que je veux faire, j'aimerais beaucoup avoir des sponsors plus au niveau ben, financement. Et donc, ben, plus j'ai de followers, plus ça fait une plateforme d'exposition pour les sponsors, plus ça les intéresse forcément. Après, moi, ça me donne aussi une certaine crédibilité, c'est-à-dire qu'ils voient ce que j'ai fait, ils savent que si je me lance dans une certaine aventure, je dis bon, ça va, elle a quand même c'est un petit peu mon CV vélo, quoi. Comme j'ai mon Strava, voilà. Après, sur le long terme, j'ai quelques idées, mais c'est pas tellement. Je me vois pas faire d'entreprise cycliste, un truc comme ça. Non. Par contre, je me vois bien faire plus des. J'ai eu quelques idées de justement de plutôt de sites communautaires où je raconterai un petit peu. Ben, parce que, par exemple, toi, tu fais des podcasts, mais un petit peu dans le même genre où je raconterai un petit peu l'histoire des gens autour de moi qui font du vélo, leurs pratiques, etc. Ça, oui, j'y pense. Après, peut-être écrire un livre ou un truc comme ça. Mais je ne me vois pas, par exemple, créer mon café de cycliste ou ma marque de vélo ou des trucs comme ça. Ça, ce n'est pas du tout mon objectif. Et de toute façon, moi, je prends plaisir aussi à avoir un métier un petit peu différent parce que du coup, ça fait que le vélo, ça reste juste une source de plaisir, en fait. Ce n'est pas mon travail. Voilà.
Bien magnifique. Et... tout à l'heure, tu m'as parlé de ton mari, et il y a quelques semaines, dans un épisode, c'était avec une fille, mais là, j'ai un trou de mémoire. Ah, ouais. C'était avec Nathalie Bayon, qui est développeuse, et ça, de ce qu'elle me racontait, ça m'a rappelé le discours, je lui ai dit ça, ça m'a rappelé le discours du fondateur du Barclay Marathon. Qui expliquait que les gens qui se lancent dans son épreuve ou dans de l'ultra sont souvent des gens diplômés qui ont l'habitude de se fixer des objectifs et éventuellement de les atteindre. Est-ce que toi, par rapport à tes études, ton travail, tu te ressens un petit peu dans cette logique? T'as un petit peu répondu tout à l'heure avec le côté plan d'entraînement, cadre, etc. Mais est-ce que tu trouves des parallèles entre ton travail qui est, je suppose, très exigeant et ta pratique cycliste qui est quand même assez engagée?
Oui, dans la mesure où j'ai l'habitude d'avoir des heures de fou et je sais que quand il faut bosser énormément et il faut se lancer, je le fais. Donc du coup, j'appliquerai le même genre d'effort que je mets dans mon travail, je peux l'appliquer dans le vélo. Après, j'aime pas trop dire qu'on fait de l'ultra, oui, parce qu'on est des diplômés et tout. Moi, je pense que malheureusement, c'est simplement que si t'es un col bleu qui doit travailler comme un fou, t'as pas forcément les moyens et le temps d'aller faire des ultras et d'aller voyager à droite et à gauche. Moi, je pense que c'est plutôt ça, en fait, qui fait que t'as des gens bien diplômés et tout qui font ce genre de choses parce que voilà, on est très privilégié. Enfin, moi, je pense qu'on n'est pas non plus super riche, quoi que ce soit, mais on est privilégié, on a du temps, on a l'argent pour, on n'est pas obligé de travailler genre deux boulots à la fois pour pouvoir arrondir les fins de mois, quoi. On a le temps d'aller faire du vélo, d'aller rouler le matin, même si moi j'y vais de 4h du matin à 8h, quoi. Je suis quand même privilégié. Donc, moi, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a peut-être moins de. Il y a plus de gens diplômés et tout qui font ce genre de sport. Moi, c'est un peu, je pense que c'est plus ça que la mentalité en tant que telle. Parce que je pense que c'est pas parce que t'as un super boulot et que t'as fait des études de ouf que t'as pas la mentalité de quelqu'un qui peut bosser dur et aller au fond des choses. Hein. Enfin, c'est ma vue, mais.
Tu roules à 4 heures du mat?
Ouais. je me lève à 4h.
Cela dit, ce matin, j'ai vu passer un selfie où tu avais quand même bien la tête dans le cul. Je me suis dit, ce matin, elle va peut-être pas aller rouler.
Non, je suis allée rouler. J'avais promis à une copine que je l'aiderais parce qu'elle devait faire deux fois 10 minutes d'effort. Donc, elle m'a dit, ce serait bien que tu me donnes les watts, quoi, que tu me paces, comme on dit en anglais. Ouais. Je sais pas comment on dit en français. Quoi,
que tu me donnes le rythme hein, ou que tu m'accompagnes, ouais, tout simplement.
Voilà. Ouais. Je vois mes watts, je savais qu'elle voulait rester à 250, donc je faisais du 250. Mais ouais, donc non, je suis allée rouler, ouais. Mais ouais, en hiver, c'est dur. En hiver, tu te lèves, il fait nuit, tu roules, il fait encore nuit. Ouais, à la fin, tu rentres, ça y est, il fait un peu jour, quoi. Mais,
ouais, donc je comprends mieux l'arrêt à la boulangerie, finalement.
Voilà, c'est pour ça, on a le petit café après, quand même, parce que mince, je mange jamais, moi, par contre, hein, pendant les sorties boulangerie, je bois du café, moi. Je suis pas trop café ride, manger au milieu, parce que sinon, ça m'explose.
Ouais.
Ah ouais, ça me coupe.
Et tu manges avant de partir rouler à 4 heures, ou tu fais ça à sec, à jeun?
Ça dépend le genre de sortie. Ouais. C'est-à-dire que si je vais faire une sortie zone 2 de 2 heures où ça va y aller gentiment, ça m'arrive très souvent de faire ça sans rien parce que je pense que c'est un bon entraînement aussi pour les ultras.
Ouais.
Par contre, ouais, pour une sortie comme aujourd'hui, c'est un peu aussi pour ça que je me suis levé tôt parce que ça me permet un peu de digérer avant d'y aller. Donc, ouais, je vais manger un petit peu quand même. Ouais.
Justement, parlons de ton entraînement. Comment tu varies tes entraînements? Parce que là, tu me parles de watts, tu me parles de trucs comme ça, des 85 épisodes que j'ai pu faire. C'est assez commun qu'on me dise, moi, j'aime pas le fractionner, j'aime pas les trucs comme ça. Alors que toi, au contraire, t'as l'air d'aimer.
Alors j'aime pas, mais je fais. J'aime pas, mais je fais. Parce que, moi je suis donc, comme je dis, j'ai pas énormément de temps. Donc il faut que mes entraînements, faut que j'ai quand même quelques entraînements que j'appelle efficaces. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est, alors malheureusement là récemment j'ai pas eu le temps, mais si vraiment je suis en préparation, moi ce que j'aime c'est faire des sorties doubles. C'est-à-dire que je fais une sortie longue le matin. Donc si c'est vraiment genre avant, juste avant la raf, je faisais genre 80 km. Généralement plus ou moins à jeun, et après j'allais au boulot et le soir je me fais une heure et demie sur le turbo et là là par contre je force et j'y vais bien quoi. Donc je me fais un entraînement plutôt structuré. Bon, ça, je vais faire ça genre deux trois fois par semaine parce que déjà moi comme j'ai dit je continue quand même à faire des crits etc, donc il faut que je garde une certaine puissance sur le vélo. Et ensuite, parce que je pense que c'est bien de pouvoir aller longtemps, mais c'est mieux si on peut faire ça plus vite. Voilà. Donc.
Et qui peut le plus peut le moins.
Qui peut le plus peut le moins. Donc, voilà,
si
exactement.
Mais je pense que ça, c'est quand même pas mal.
Exactement, ça donne pas mal d'efficacité. Puis après, voilà, je roule quand même beaucoup là, un peu plus avec des femmes parce que c'est super. J'ai réussi à rencontrer des femmes qui sont un peu dans le même délire. Mais c'est vrai quand même, je fais beaucoup de sorties avec des hommes, et il faut tenir, hein, donc voilà, je peux pas me permettre juste de faire des sorties longues pépère. Voilà.
Depuis tout à l'heure, tu me fais des appels tu-pieds sur tes projets de l'an prochain, si tu m'en parlais.
Ah.
T'es contente, ça y est, hein, j'y viens enfin.
Ah, c'est toi qui voulais que je te parle du vélo, hein, donc c'est pour ça.
Ah, mais moi, depuis le début, tu me dis, il y a plein de trucs à raconter, et j'en étais convaincu depuis deux semaines. Évidemment qu'il y a plein de trucs à raconter, et on n'a pas fini.
Ouais, je pense que le plus intéressant est à venir, parce que moi, ça me met toujours un peu mal à l'aise, parce que mon palmarès est quand même limité, hein, pour l'instant, étant donné que je fais des vélos que depuis 2017. Mais oui, j'ai un projet pour l'an prochain. Je prévois de faire un tour du monde en 6 mois. Bon, c'est pas encore officiel. Je l'ai pas encore annoncé à mon patron.
Tu l'as dit à David ou pas?
Oui, non, David, c'est... Non, mais David vient avec moi. On fait ça à deux.
Ok.
Cool. Voilà. Donc c'est prévu. On commence à avoir des conversations avec plusieurs personnes. On avait une route plus ou moins définie. Le gros problème, évidemment, c'est Covid, parce qu'à l'heure actuelle, de demander des visas pour la Chine et tout ça, c'est pas fun.
C'est chaud.
Voilà. Donc c'est un peu le problème qu'on a. Donc on est en train de voir si au lieu de partir de faire du Londres, on peut pas faire du Sydney ou un truc, enfin, ou de partir de l'autre côté de la terre ou quoi, pour commencer en fait sur une étendue très longue, parce qu'on se dit que d'ici là, si on part de Sydney et qu'on revient en Europe en l'été, d'ici là, Covid, ça sera déjà peut-être un peu calmé, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée. Après, évidemment, on a des gens qui nous ont suggéré, mais pourquoi vous, au lieu de faire un tour du monde en passant par le Tadjikistan, vous avez qu'à faire genre vous parlez de l'Alaska jusqu'à la Floride, mais bon, nous on trouve ça un peu dommage. On veut avoir un petit côté aventure avec un peu des routes un peu défoncées. On ne sait pas trop où on va. Sinon, ça a plus grand intérêt, quoi. C'est un peu ça l'idée. Si c'est juste du goudron tout parfait et qu'on reste dans le monde occidental, c'est moyen, quoi. Donc voilà. Donc on est en train de prévoir ça. D'où le vélo donc en titane. Qui est un vélo de géométrie gravel, mais qui aura des roues plutôt de route, parce qu'on n'a que 6 mois pour le faire, donc on va essayer de faire ça vraiment avec peu de sacs en version light, quoi. Voilà.
Pourquoi que 6 mois? Pourquoi tu me dis on n'aura que 6 mois?
Alors, on n'a que 6 mois parce que David donc est médecin, il est chirurgien orthopédiste en Angleterre, donc il continue ses études, lui il n'a pas totalement fini, il est ce qu'on appelle un registrar, et en fait dans le programme dans lequel il est, ils font des rotations de 6 mois.
D'accord.
Et donc pour lui ça marche mieux si on fait ça en 6 mois. L'avantage quand même, c'est que si c'est vraiment la cata absolue, on peut étendre un petit peu. Voilà. Après on aime bien l'idée de se faire un petit challenge, parce que autrefois, c'était très exotique de faire un tour du monde à vélo. Aujourd'hui, moi, j'ai écouté certains de tes podcasts, on fait ça en famille, quoi. Donc, et même, on parlait avec un couple, là, dimanche, qui nous ont dit, n'ayez pas peur, franchement, il y a plein de gens qui se disent, mais c'est dangereux et tout. Ils ont dit, à part les chiens, franchement, il y a aucun danger, quoi. Ils ont vraiment aimé. Ils ont eu quelques rencontres particulières avec les chiens en Turquie. Ça, on me l'avait déjà dit et ils l'ont confirmé. Mais bon, ça, voilà, c'est comme ça, quoi.
Alors, je t'enverrai un profil Instagram tout à l'heure d'un mec qui s'appelle Antoine et qui a posté la semaine dernière sur bikepacking.com et donc sur YouTube parallèlement une vidéo avec sa femme sur le Pamir, donc au fin fond de l'Afghanistan. Je lui ai écrit dans la foulée pour lui proposer qu'on fasse un épisode et il m'a répondu, là on arrive au Kenya et je suis pas sûr d'avoir du wifi à toutes les étapes, donc j'attends un petit peu qu'il ait stabilisé ses étapes et sa connexion et on va faire donc un épisode ensemble et je t'enverrai son profil à l'issue de notre entretien. Je pense que ça peut t'intéresser. Les photos sont barge.
Le Pamir Highway, moi je voulais vraiment le faire, mais en 6 mois, ça va être un peu trop difficile. Là, par contre, ça sera plus une aventure gravel pour un prochain projet. Moi, j'ai quelques projets comme ça. Je veux faire en gravel, je veux faire la Pamir Highway, je voudrais faire l'Islande aussi. Ça, c'est un des trucs que j'aimerais beaucoup faire.
Bon, c'est plus facile, l'Islande, déjà.
Ah oui, c'est plus. Voilà. Tu as dit, le centre de l'Islande, c'est tout du sable volcanique et tout. C'est ça que crève. Hein. C'est assez fatigant. Mais oui, c'est moins dangereux et exotique, c'est sûr.
Ah, mais le Pamir, tu te rends compte, le fin fond de l'Afghanistan. On parle quand même de l'Afghanistan. Tu vois, l'Islande, tu peux me dire que c'est difficile, etc. Mais c'est à une heure d'avion. Pareil, ouais. C'est une heure d'avion. Ils sont cool, les Islandais. C'est Björk. Tu vois. Là, on parle de l'Afghanistan, quoi. Et puis le Pamir, c'est encore plus paumé. C'est même pas juste Kaboul. C'est paumé au fin fond du. Enfin, voilà, tout le monde a compris ce que je voulais dire.
Ouais. Non, non. je pense que si je fais ça, je tue mes parents.
Après, ça dépend. Ça dépend s'il y a un héritage à la clé ou pas.
Alors là, non,
ça peut valoir le coup quand même.
Je pars en Afghanistan déjà. Déjà, la Turquie et l'Iran, ils sont inquiets parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, les informations qui nous rabattent les oreilles comme quoi les Français sont détestés à l'international, mes parents sont en mode stress. Ouais, oui, tu leur diras bien que tu es britannique. Hein. Je fais,
oui. Ouais, c'est, là, ils n'ont pas entièrement raison. C'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas super, super bien vu. Mais je pense que quand on arrive sur le terrain...
C'est différent.
Et en plus, avec un vélo, ils voient bien que... c'est à moins d'arriver avec un t-shirt avec la photo du président Macron. Bon, a priori,
tu vois. J'aime Emmanuel.
je suis pas convaincu que ça soit une super idée de génie, mais ouais. Globalement, le vélo, enfin, de tous les entretiens que j'ai pu avoir récemment, le vélo augmente largement la cote de sympathie quand t'arrives dans une terre hostile.
Ouais.
Et il y a plus de nationalité dans ces moments-là. Il y a que des relations humaines.
Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est pratiquement un problème aussi. Le couple nous disait, si vous voulez aller vite en Turquie, ça va être dur parce que nous, honnêtement, dès qu'on entrait dans une gas station, quoi, dans un station essence, on se disait, bon, allez, on rentre et on ressort. Hein. 3 heures plus tard, t'étais encore à boire du thé.
Donc, ah ouais,
c'est comme ça, quoi. Donc, ça, ils nous ont rassurés que les légendes sont vraies. Il y a un accueil des cyclistes et un intérêt tout de suite. Donc, il y a vraiment beaucoup de rencontres qui se font sur la route, ce qui, moi, c'est un petit peu ce qui me stimule le plus. Moi, je pouvais, après un an en isolation, moi, ce que je veux maintenant, c'est rencontrer des personnes différentes, quoi. Ouais.
C'est un moteur aussi pour toi d'aller rencontrer des gens pas de nationalité différente parce que t'en as l'habitude, mais de milieux très différents et de milieux radicalement opposés de ce que tu connais via ton travail.
Ah ouais, totalement. Moi, j'ai étudié les relations internationales. J'ai toujours été absolument fascinée par les différences culturelles et justement le manque d'incompréhension qu'il y a parfois entre les nations au niveau justement au niveau macro, alors qu'au niveau micro, on a plein de petites choses en commun en fait. Et j'aime beaucoup justement les petites rencontres qu'on peut avoir avec les gens qui viennent de milieux absolument différents. Moi, par exemple, j'ai des amis qui viennent d'Inde. Et tu me dis tout à l'heure, oui, la mère italienne, etc. Et ben, ce qui est génial, c'est que la mère indienne et la mère italienne, et ben, elles sont très, très similaires. Tu vois. Et quand je parle avec eux, comme ça, on rigole parce que tu te rends compte qu'au niveau, alors, au niveau macro, évidemment, les cultures sont différentes. Et puis au niveau micro, tu te rends compte que l'être humain, il a ses petites habitudes et tout, et qu'en fait, tu les retrouves. Et j'adore ça dans les voyages, quand tu connectes avec des gens d'une manière un petit peu personnelle. Et j'espère vraiment pouvoir avoir ça sur la route, en fait, et puis découvrir des modes de vie différents. Et j'aimerais aussi beaucoup contacter justement des clubs de vélo, etc., au niveau local, pour voir un petit peu les pratiques du vélo et comment elles sont vécues, pour voir si on aime le vélo de la même manière en Chine et en Ouzbékistan, quoi. Voilà.
Je t'enverrai également le lien vers une course VTT en Afghanistan qui a l'air vraiment géniale.
Ok, d'accord. Cool.
Ça a l'air vraiment, vraiment cool. Et il y a tout un mouvement également à Kaboul pour mettre les jeunes filles sur un vélo.
Oui, j'ai vu ça. Ouais,
ça, c'est vraiment cool aussi. C'est vraiment cool. Ouais. Dis-moi, on va parler un petit peu gravier. Si je te dis 24 janvier, on va courir au nord de Londres. Tu viens ou pas?
Ah bah à fond.
J'adore.
Mais je crois que je l'ai vu. Je crois qu'il y a une course dans les Chilterns. C'est pas ça?
Alors je sais pas.
Les Chilterns, c'est au nord, nord-ouest. C'est dans les dans les petites collines.
Alors, les Chilterns, voilà, j'ai la carte sous les yeux, effectivement.
70
c'est...
kilomètres. Hein.
Combien?
70 kilomètres, je crois, non?
Au nord de Londres ou la longueur de la course?
La longueur, il y a trois formats, je crois qu'il y en a un, c'est de 70.
75, mais qui a l'air bien cassant 15. Quand même, ça a l'air bien, bien rigolo. Et tu vois, je me tâte et j'ai vu tout à l'heure que justement, l'Angleterre assouplit ses conditions d'accès. Ouais. Et je croise les doigts pour que ça aille en s'arrangeant, évidemment, comme tout le monde. Pour éventuellement venir faire cette petite chose fin janvier.
Si tu viens, tu es le bienvenu chez nous. Écoute, hein, on a une chambre d'amis.
c'est très gentil de me compter parmi vos amis, mais est-ce que moi, je vous compte parmi mes amis?
En tout cas, nous, c'est une maison qui accueille les vélos. Hein. Il y en a partout dans la maison, ils ne sont pas dehors. Hein, donc,
Ah bah non, ça c'est sacrilège, ça. Sacrilège.
Sacrilège. Oh, sacrilège.
Misère. Tu parles à ton vélo?
Ah oui. Non, oui. C'est tout des filles, mes vélos aussi.
En plus.
Ouais.
Ce sont des bicyclettes, alors?
Ouais, c'est des bicyclettes.
Moi, je lui parle, au mien, je la...
Ouais.
Je lui caresse la selle, c'est, je lui dis « Papa, papa, t'inquiète pas, papa revient bientôt.
» Papa revient bientôt, tu vois, ouais, t'inquiète pas.
Ouais, ouais, non, ouais. Non. Non, là, j'ai un petit peu honte d'avoir dit ça. Je pense que je vais couper au montage.
C'est possible. Non, mais c'est pas grave, je pense que tout le monde est un peu fou dans son genre.
Hein, ouais. Ouais. Bon, dis donc, Caroline, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que il y a un sujet que l'on n'aurait pas abordé?
Non, enfin, on a à peu près touché à tout, je crois. Ouais.
Si, il y a un truc dont j'aimerais te parler. Je suis pas sûr que ce soit toi, mais récemment, donc, comme tu le sais, j'ai fait un épisode avec Nathalie Bayon, et quand j'en ai parlé à un ami, il m'a dit, ah, mais oui, Nathalie, elle a fait l'ARAF avec je sais plus qui. L'autre n'en a pas vu les roues tourner. Est-ce que j'ai la bonne mémoire? Est-ce que c'est Nathalie qui t'a mis la misère ou c'est l'inverse? Je me souviens plus.
Elle ne m'a pas mis la misère. On n'ira pas aussi loin. C'est juste que moi, j'ai été particulièrement malade et que j'ai eu un problème mécanique. Mais oui, voilà. Elle est arrivée pour moi. Moi, j'étais lanterne rouge. Voilà.
Est-ce qu'on peut parler un instant, entre guillemets, la rivalité qui peut y avoir entre filles? Est-ce qu'on peut parler de ça?
Oui, bien sûr.
Est-ce que ça existe?
Ça existe. Ouais, ça existe. De toute façon, il y a de la rivalité dans tout. Enfin, moi, si je pouvais physiquement me comparer aux mecs, j'aurais de la rivalité avec eux. Hein.
Bah, voilà. Tu peux te comparer parce qu'il y a forcément, je veux dire, il y a pas de.
Ouais, mais c'est pas aussi binaire que ça. Moi, si je bats un mec, c'est que du bénéf, quoi. Voilà. Alors que si un mec me bat, je dis ouais, bah, c'est normal. Hein, je suis une fille, moi, j'ai pas la testostérone. Et aucune gloire.
C'est complètement con comme réflexion. Désolé de te le dire comme ça, mais c'est complètement con.
Biologiquement parlant, un mec, c'est forcément plus costaud qu'une nana.
Ben hein, oui, mais sauf que nous, entre garçons, il y a déjà des différences de niveau. Il y a des mecs qui sont bien plus forts que... Enfin, dire, on est déjà carrément tous différents. Les nanas sont tous différentes.
Entre mecs, je dis pas ça.
Et forcément, quand tu mets les deux en parallèle, eh ben, une nana balèze, une grosse rouleuse comme toi ou Nathalie, eh ben, sur le Biking Man Course, elle est arrivée devant plein de monde. C'est con. Enfin, je suis désolé, je te le redis encore une fois, mais c'est con, hein, comme réflexion.
Ouais, non, t'as peut-être raison. C'est juste que moi, déjà, bon, l'ultra, je l'ai entendu aussi de la part de pas mal de gens. Il y a tellement d'inconnus dans l'ultra que c'est pas forcément le cycliste le plus rapide ou même le plus récent qui va arriver en premier. Il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de qu'est-ce que ton tracé c'était le même, est-ce que voilà, il y a plein de petits éléments. Donc moi, de toute façon, quand je fais un ultra, en tout cas pour l'instant, je cherche pas à arriver en premier. Moi, ce que je veux, c'est finir, quoi. Déjà, c'est le premier point. Après, oui, bah, rivalité entre filles, c'est sûr qu'il y en a. Moi, j'en ai, bah, les critériums, l'ambiance, elle est un peu pourrie, hein.
C'est quoi, vous regardez de travers un petit peu?
Ouais, à la limite, je trouve, bah, justement, les mecs, surtout s'ils sont genre en critérium au niveau 4 et tout, bon, ils font la course, puis après, souvent, ils ont une bière et tout, c'est presque plus relax. Alors que les filles, notamment parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de filles, même, qui font ces critériums, qui ont vraiment envie de devenir pro. Toujours parce qu'elles font de la course depuis qu'elles ont genre 7 ans, quoi, et elles sont avec toi, donc elles prennent ça vraiment très très au sérieux. Et ouais, il y a une petite ambiance quand même, il y a des petits pics qui partent et des petites insultes qui sortent de temps en temps. Voilà, après moi, j'ai des rivalités avec des amis, mais ce que j'ai appris à faire en fait, c'est plutôt que justement de garder une rivalité qui devient vachement toxique, j'essaie au contraire de m'en servir comme quelque chose de positif. Par exemple, il y a une des filles qui est venue avec moi à Tenerife, ça c'est Maddy. Maddy, c'est une super cycliste, c'est une grimpeuse de fou. Et c'est vrai qu'au début, on avait du mal à devenir vraiment copine, parce que je sentais qu'il y avait cette espèce de rivalité tout le temps à voir qu'est-ce que toi tu fais, c'est quoi ton entraînement, qu'est-ce que tu as. Et donc du coup là, elle a voulu faire les nationales, les montées de, ça c'est très, très anglais aussi, là, le contre-la-montre, mais en montée. Donc le hill climb, ils appellent ça les Anglais, les nationales. Et donc je lui ai proposé dès le début, je dis mais viens, je t'emmène, je te fais tout, je te fais le support de course, etc. Et quand je me suis investie dans son effort, dans sa victoire, ça a tout de suite un peu arrondi les angles. Et donc j'essaie vraiment moi de pas avoir ce genre de rivalité négative et au contraire d'essayer d'avoir quelque chose qui stimule et qui pousse dans sa pratique, ce qui fait que maintenant quand on était à Tenerife, on fait une petite course et tout, mais ça reste bon enfant, quoi. C'est pas du négatif. Voilà. Mais oui, il y a les rivalités.
Quand même un petit peu.
Bah,
s'il
y a un bon niveau, il y a forcément.
Non, mais c'est marrant ce que tu dis, tu vois, sur la différence d'ambiance entre les garçons et les filles, ce qui est normal parce qu'on n'est pas pareil, donc on a forcément une sensibilité, une perception différente. Ouais. Et également, ce qui est intéressant, c'est que tu as noté qu'il y a une tradition anglaise du contre-la-montre en côte. Et ouais. Je vais t'envoyer une vidéo que tu connais, j'espère, une vidéo, et je la diffuserai également, je la mettrai dans les notes du podcast, qui est assez géniale. Et effectivement, on parlait tout à l'heure du manque de tradition cycliste, entre guillemets, du manque de tradition, mais ça, c'est vraiment un truc typiquement anglais qu'on a beaucoup moins, nous, en France, en tout cas.
Ouais. Peut-être parce qu'il y a des codes que c'est un petit peu le seul truc qu'on a en Angleterre. On a vraiment des codes qui s'y prêtent très très bien. Quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'un bon petit truc qui fait du 16-25% court, voilà, on est plutôt. Et qui fait genre, je sais pas, ça fait combien, et c'est une montée de 4-5 minutes, hein, c'est très court généralement. Donc, ouais, on a plutôt des choses qui s'y prêtent plutôt bien en Angleterre. Ils aiment beaucoup ça. Dès qu'arrive l'automne, ça devient l'activité principale.
Voilà. Ouais. Cool. Ouais. T'avais dit un autre truc aussi, mais là j'ai quand même un trou de mémoire, donc je vais être obligé de m'avouer vaincu.
Je sais pas, le Tour de France, la RAF, je sais pas, je pense qu'on a déjà couvert pas mal de trucs.
Ouais, on a déjà couvert plein de trucs. Donc, non, c'est sur ce que tu viens de dire, là, tout à la fin, vraiment, dans les dernières phrases, t'as dit un truc ou deux, et je me suis laissé. Distancé, on va dire, sur le coup de la course en côte, et j'ai oublié. Mais c'est pas très grave, parce que ça fait déjà, laisse-moi vérifier, 1h17 que nous déblatérons. Ouais. Donc, je pense qu'on a déjà bien saoulé tout le monde. On a perdu 90% de l'auditoire.
Je me suis fatigué moi-même, là, j'ai trop parlé.
Ah ouais? Mais juste une dernière question. Dans quel état d'esprit tu es quand tu roules le matin, quand tu roules le soir et que tu travailles au milieu? D'un point de vue, là, on parle depuis tout à l'heure, on parle de ta vie de couple, à gérer au quotidien, que ce soit avec quelqu'un qui adore le vélo, qui te soutient, ou même avec, ou pire, avec quelqu'un qui te soutiendrait pas. Ouais. Est-ce que t'es facile à vivre quand tu t'entraînes autant, ou est-ce qu'il vaut mieux rester à l'écart?
C'est quand je m'entraîne pas que je suis pas facile à vivre. C'est quand je m'entraîne pas, quand je suis je me suis pas entraînée, est-ce que tu penses que voilà machin. Là j'ai une période au niveau du boulot qui était vraiment horrible et j'ai très peu roulé pendant 3 semaines et j'en mettais plein la tête à mon mari quoi. Il était dans mes Caroline, mais tu nous gonfles quoi, c'est bon, t'es pas pro, c'est la vie quoi. Passe à autre chose. Non, voilà, non, moi je suis au contraire. Si je m'entraîne, je vais bien. J'ai la sérotonine qui est élevée. Je suis de bonne humeur. Voilà, c'est quand
je vois la vie du côté chance.
Voilà.
Et à l'issue de ces 3 semaines, est-ce que tu as constaté que tu avais perdu, que tu t'étais flippé la race pour rien, et que au contraire t'étais revenue un petit peu plus fraîche peut-être et un petit peu plus motivée?
Ben, j'étais plus fraîche et plus motivée. Ouais. Surtout que j'ai quand même fait pas mal de bornes déjà cette année, donc en fait. C'était peut-être pas si mal, j'étais pas mal d'avoir pris un peu de repos. Là, je suis allée à Tenerife, les filles, elles disaient « Ah, mais t'as mangé du lion, quoi, j'étais en bonne forme. » Voilà.
Donc, est-ce que ça a remis un petit peu, bon, avec évidemment tes 3 années de pratique qui sont très courtes, est-ce que ça t'a mis un petit peu en perspective l'importance du repos malgré tout et qu'il ne faut pas non plus être juste une bourrique de l'entraînement?
Ouais, totalement, c'est sûr. Ça remet les choses un petit peu en perspective, voilà. Après, ouais, j'ai l'avantage, moi je suis pas pro, donc c'est que pour le plaisir. Donc si j'ai envie de m'étourdir avec le vélo, je peux.
Voilà. Voilà. Et pour terminer, un enfant l'année prochaine? Ça c'était la rubrique pipo là.
Ben 2021 non, 2022 franchement va falloir s'y mettre. Hein. Je pense quand même ça viendra. Faudra s'y mettre.
Faudra s'y mettre, me dit-elle. Tu me parles depuis tout à l'heure de vélo. Bon, alors la RAF, pas de problème. Le tour du monde, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, pas de problème. Par contre, le gamin, va falloir s'y mettre et ça.
C'est un vrai changement de vie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas. Ça, il faut que je me lance dedans vraiment. Ouais. En étant vraiment préparé. Je peux pas improviser. Voilà.
Tu sais quoi?
Ça dit comme. On dit toujours que c'est toujours le mauvais moment.
Il n'y a pas de bon moment et il n'y a pas de mauvais moment. Et, je vais te donner un conseil de papa qui n'aime pas les enfants. Parce qu'en fait, j'aime pas les enfants. Et c'est ce que je croyais, que j'aimais pas les enfants. Et en fait, j'avais tort.
Tu vas aimer les tiens.
Alors, je les aime tous maintenant. on n'est jamais prêt. et tu peux faire tous les plans que tu veux, ça sera jamais la bonne solution.
Exactement.
Donc, je vais pas vous le dire vulgairement, mais allez-y, hein, tapez dedans et...
Allez, c'est l'aventure. Ouais.
Allez-y, allez-y, et puis de toute façon, vous serez pas prêt, quels que soient les trucs. Je veux dire, c'est de l'ultra, c'est de l'ultra puissance 10. Vous imaginez même pas. Le vélo à côté, c'est du pipeau.
Ah, mais c'est clair. Mais au moins, c'est bien, ça va me permettre de découvrir d'autres trucs comme le BMX et tout ça.
Mmh. Ouais, bah tu les emmèneras. Bon, on a quelques discussions musclées parce que j'aimerais bien qu'Ellie fasse du motocross. Je trouve que ça serait cool pour une fille de faire du motocross.
Ouais, je fais de la moto, moi c'est chouette la moto, j'aime beaucoup. J'ai jamais fait de motocross par contre.
Ouais. Et écoute ma grande, je te propose qu'on reste en contact et qu'on essaye de se caler dès qu'on est chez nos parents respectifs, parce que manifestement on sera pas loin.
Ouais.
Et qu'on aille rouler, et ça sera un vrai plaisir de te voir en vrai ainsi que le docteur. Et puis je te tiens en courant pour Badlands.
Ouais, ça marche, super.
C'est cool. Je te laisse pour la mine de solitude. Tu es habitué vu que tu écoutes maintenant. Tu le sais, donc tu vas pouvoir faire passer le message de ton choix. Merci beaucoup, Caroline. À très bientôt.
Merci beaucoup. Merci de continuer à suivre les aventures pour l'année prochaine. Ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. On mettra notre route en ligne. Et puis, ce qui serait super, c'est que s'il n'y a plus Covid, que des auditeurs viennent se joindre à nous et rouler ensemble. Parce que ce qu'on souhaite avant tout, c'est de rencontrer d'autres cyclistes passionnés. Voilà. Merci beaucoup.